France Inter, Laetitia Gaillet, le 6-9 de l'été.
Bonjour Claire Checaglini.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Dans la presse, Le Monde s'intéresse à un perdant.
Et son nom est Donald Trump, écrit Laurent Borédon, l'envoyé spécial du journal à Portland, ville démocrate de l'Oregon, devenue l'épicentre des manifestations du mouvement Black Lives Matter. Une ruche de terroristes, des anarchistes qui détestent notre pays et avec des élus incompétents, dit le locataire de la Maison Blanche, toujours enclin à la modération. Alors le reporter du Monde est allé à la rencontre de cette Amérique, celle que Fox News présente chaque soir comme à feu et à sang et qui a fait reculer le président lui-même, ou plutôt non, ses troupes fédérales, les Feds. Elles ont été officiellement prié de quitter Portland jeudi. Des Feds en tenue de camouflage et équipement paramilitaire, mais des Feds démobilisés. Le revers est net pour Washington. Le président de la loi et de l'ordre est apparu comme le vecteur de l'arbitraire et du chaos, écrit le journaliste. Un chaos qu'est aussi allé explorer Libération. Laure Andrion s'est mêlée à ces femmes qui forment chaque soir, vers 21h, le mur des mers, sorte de paravent entre les troupes fédérales et les manifestants. Il a été mis en place depuis le 18 juillet. La plupart de ces mères sont blanches, à l'image de Beverly, 35 ans, et qui voit ce mur comme une réponse viscérale, dit-elle, au cri de détresse de George Floyd. La ruche de terroristes de Donald Trump prend alors l'allure d'une masse qui décline des slogans sur des airs de berceuse ou de comptines pour enfants. La reporter de Libération écrit « Des femmes avancent, bras dessous, vêtues de casques de vélo, ornées de fleurs, de tournesols. Elles s'installent volontairement en première ligne, brandissant couvercles de poubelle ou des luges en guise de bouclier. Leur protection ? Des lunettes de natation, de bricolage, des gants de jardinage, des tailles libées. Nous voulons utiliser nos corps blancs. Nous prendrons quelques coups dans l'espoir que cela n'épargnera un peu la douleur à nos enfants, amis et voisins de couleur, explique leur manifeste. La ville est l'une des plus blanches des États-Unis, rappelle Le Monde, avec seulement 6% d'Afro-Américains. Et l'Oregon a longtemps été l'unique État, leur interdisant de résider sur son territoire même. Mais Portland, c'est aussi Portland l'ouvrière, l'étudiante protestataire, la preuve aujourd'hui. Alors la victoire contre les Feds, ces policiers fédéraux, sera-t-elle un mirage, s'interroge Laurent Borédon. De toute façon, plus personne ne fait ici confiance aux politiques démocrates ou républicains, écrit-il encore. Alors la réponse est peut-être à trouver. Quelques pages plus loin, dans l'éditorial, la démonstration de force de Donald Trump n'est qu'un aveu de faiblesse. Et Le Monde de rappeler que le déploiement de Portland était également apparu comme une tentative assez grossière de diversion par rapport au principal sujet, l'épidémie de Covid-19 et ses 150 000 morts au moins aux États-Unis.
Loin des tensions de l'Oregon, cette histoire de vacances dans Libération, des familles qui se revoient chaque année sur une île en Bretagne.
Alors quoi de plus banal ? Eh bien sauf qu'elles sont liées depuis des générations par une histoire familiale dramatique qui s'inscrit dans l'histoire avec un grand H cette fois, celle de la résistance. Été 44, Clément Verfailly, étudiant de 19 ans, est arrêté par la Gestapo. Il transporte alors du matériel radio pour un réseau dans la Sarthe. Mis en prison, il est rejoint par un groupe de résistants dans lequel se trouve Louis Boulanger, plus âgé, plus impliqué aussi. Tous les deux sont déportés. Louis est comme un père pour le jeune résistant. Claude, sa veuve, se souvient. Clément est rentré en France le 2 juin 45. Quand il foule le sol, il pèse à peine 40 kilos pour 1m80, sa mère ne le reconnaît même pas. Mais surtout, Clément rentre seul. Louis n'a pas survécu. Il s'en voulait de ne pas l'avoir ramené en France, se remémore Claude, douloureusement. Pas question d'oublier celui qui l'aura protégé, soutenu durant les plus atroces moments de sa vie. Le jeune homme va alors à la rencontre de la famille de Louis. Et c'est ainsi que naît une amitié avec les proches du déporté. Clément se marie, devient père et ce sont les deux familles de Louis et de Clément qui passent chaque année leurs vacances sur l'île de Groix en Bretagne. Depuis, la tradition perdure. En cette fin juillet 2020, écrit Libé, quatre générations, descendants des deux résistants, sont tous attablés ensemble. Le tout petit dernier a comme deuxième et troisième prénom Clément et Louis. Philippe, le petit-fils du résistant disparu, est toujours reconnaissant. Clément nous a rendu la mémoire. Il nous a rendu l'histoire de mon grand-père, dont nous n'avons jamais pu récupérer la dépouille. seule survivante de cette époque, Claude, dont 92 ans, qui se rappelle, on est même allé visiter son camp en Allemagne dans les années 90, il a dit « Vous ne me faites pas payer !» Il s'est fait comprendre et on est entré. La vieille dame explique encore que son mari a eu à cœur d'aller témoigner dans les établissements scolaires, une parole nécessaire, mais qui leur a mis 15 ans avant de pouvoir évoquer sa déportation.
Et puis dans le Figaro, Claire, ce matin, une bonne nouvelle sur le front de la délinquance. Le nombre de vols d'œuvres d'art a chuté de 50% en 12 ans.
Oui, le chiffre est impressionnant. Sauf que, une phrase après, on comprend que ce sont les faussaires et les escrocs qui ont pris le relais. Alors le Figaro s'est en effet procuré les chiffres de l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Et ce sont chaque année 1300 œuvres d'art de moins qui disparaissent dans la nature comparées à 2007. Les voyous à l'ancienne, chevronnés, encagoulés, gantés, venus souvent de l'Est, écrit le Figaro, et écumant châteaux et musées, se font de plus en plus rares. Il est donc loin le temps où, en plein après-midi, un tableau de Corot s'était fait la malle au Louvre. C'était un jour de printemps 96. Un fantomas de l'impressionnisme, écrit le Figaro, avait dérobé cette toile de maître au deuxième étage de l'aile Sully, le tout en moins de 2 minutes chrono. Changement d'époque, changement de méthode. Désormais, nous sommes passés d'une délinquance d'appropriation à une délinquance astucieuse. La qualification pourrait être flatteuse, sauf qu'elle est portée par l'un des responsables de l'OCBC. Cette délinquance astucieuse, donc, porte sur le négoce de fausses œuvres d'art et des copies. Et le Figaro s'est renseigné sur les prix. Des tableaux fraîchement réalisés par des peintres complices et attribués à des artistes cotés se négocieraient à Paris entre 30 000 et 120 000 euros quand même. Le procédé astucieux fonctionne aussi avec des antiquités fabriquées il y a quelques semaines, de l'autre côté de la Méditerranée, et de faux meubles anciens. Parmi les victimes de ces trafics, le château de Versailles, en 2016, l'honorable institution avait acheté 6 sièges douteux. Le lot avait quand même coûté la rondelette somme de 2 700 000 euros.
Merci, c'était la revue de presse de Claire chez Caglini.